On va aller tout de suite parler à notre ami Patrick Derry qui est au bout du fil parce que Patrick Derry qui est analyste en politique publique spécialisé en santé. Patrick, le gouvernement du Québec semble être en train de tripoter les chiffres puis ça rend, disons, ça rend les choses difficiles à comparer sur le temps, là.
Oui, on a un gouvernement Houdini hein, qui s'est livré hier à un exercice de prestidigitation en faisant disparaître 200 patients des statistiques d'hospitalisation. Pouf!
Mais OK, explique-nous, c'est quoi la logique derrière ça? Parce que j'ai vu passer ça, là. Il y a le président de l'Association des intensivistes là, qui a dénoncé ça aussi. Je veux dire, c'est pas parce que tu classes différemment les patients sur papier qu'ils sont moins présents dans les hôpitaux, là.
Non, mais ça paraît mieux. Mais la logique est la suivante, c'est qu'il y a un certain nombre de patients qui sont à l'hôpital présentement, qui sont en attente d'une place pour pouvoir retourner, par exemple, en CHSLD. Ils sont plus des cas actifs de COVID, mais ils demandent toujours des soins, il y a toujours un lit, mais on dit, bon, ben c'est plus des cas actifs de COVID, donc on les compte plus. Il y a aussi un certain nombre de patients qui sont hospitalisés, mais en dehors des hôpitaux. Fait qu'on a décidé de pas les compter, eux non plus. Le problème, c'est que ces patients-là occupent toujours une place que quelqu'un d'autre pourrait occuper, et c'est pas tout non plus d'avoir des lits, ça prend des soignants aussi. Fait que, comme le président des intensivistes disait, c'est pas parce qu'il y a 200 patients de moins qu'on a soudainement 200 c'est pas parce qu'il y a 200 patients de moins qu'on a soudainement 200 lits qui sont disponibles. Et évidemment, ben ça défait les comparaisons parce que là, ça baisse 200 d'un coup. Fait que, tu sais, on est où finalement? Le but, c'est pas de ces comparaisons-là, puis de cette mesure-là, surtout, c'est de voir où est-ce qu'on en est dans notre capacité à traiter les patients. Ça va-tu de mon côté? Si ça continue à monter les hospitalisations, heureusement, ça ne semble pas être le cas. Ceci dit, ça descend. Mais c'était drôle de faire ça à ce moment-là.
OK. Explique-moi quelque chose, Patrick. Moi, j'ai souvent dénoncé, que ce soit en entrevue avec toi, ailleurs, le fait qu'au Québec, c'est difficile d'avoir des données qui sont d'abord accessibles, ensuite fiables. Et on l'a vu dans la saga des tests. Hein. On nous promettait des tests, puis après ça, whoop, on nous arrive avec un chiffre. Mais là, bon, ça prend en compte la variable A, mais pas la variable B. Est-ce que c'est juste que la machine au Québec a de la misère à fournir des chiffres ou c'est que le politique veut cacher des choses?
Des fois, la machine a de la misère. Hein? C'est sûr que, par exemple, on a vu que le fax est encore un outil utilisé abondamment dans le système de santé. Dans ce temps-là, c'est un petit peu plus lent. On a envie de leur dire, ben, vous pouvez pas prendre un Google Doc collaboratif, peut-être. Ça serait déjà mieux. Mais il y a aussi une question de culture, je pense. Et tout est politique. La politique a beaucoup d'emprise là-dessus. Puis même dans la haute fonction publique, à un moment donné, il y a un réflexe de se dire que soit que on dit que les gens ne seront pas capables de tout prendre et qu'ils vont paniquer. Monsieur Legault a évoqué ça là, pour ne pas dévoiler certaines informations, notamment des scénarios. Puis il y a aussi un réflexe de protection, c'est-à-dire qu'on cherche aussi à se protéger nous-mêmes. Sauf qu'à un moment donné, moi, je pense qu'il faut que tu fasses confiance à la population que tu veux diriger. Ces données-là, ils appartiennent pas au gouvernement. Ils sont les fiduciaires, mais c'est
des données
publiques. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, ça contraste avec... j'ai fait une recherche il y a quelques années sur un hôpital situé en Suède. Puis, évidemment, j'ai envie de faire en Suède.
Okay.
Avec appréhension parce que la barrière de la langue, puis tu sais, comment je vais être capable d'avoir les choses là-bas. Mais écoute, ça a été tellement facile. D'abord, tout est public, tout est sur Internet. Et j'avais même un employé du gouvernement au comté de Stockholm, en tout cas, la santé, c'est régional là-bas, qui non seulement me donnait les données que je lui demandais, me trouvait des bons rapports, mais en plus, il me disait, il y a peut-être ça que tu devrais trouver intéressant, puis c'est lui qui m'en envoyait. C'est un contraste saisissant, puis tu sais, tu l'as vu sans doute toi aussi, là, quand on fait une demande d'accès à l'information...
Excuse-moi, as-tu dit une demande d'accès à l'information?
Là, je parle au Québec.
Non, parce qu'on appelle ça une demande du déni de l'information au Québec.
Bon, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est ça, la loi d'accès à l'information, dans les faits, tu le sais bien, c'est une façon de limiter l'accès à l'information, pas de le faciliter. Si on voulait que ça soit accessible en 2020, on mettrait tout en ligne, tout le temps. Et c'est pas ça qu'on fait au Québec. Puis des fois, ça atteint des niveaux qui sont ridicules. Le gouvernement a dévoilé ses scénarios il y a pas longtemps, les prévisions, là, tu sais, en mars, là, pour qu'est-ce qu'on allait avoir comme nombre de cas d'hospitalisation au 30 avril, le nombre de décès. Il y avait un scénario italien, un allemand, puis un scénario portugais. On les avait, les documents. On avait le chiffre qu'il y avait à la fin, puis on avait les courbes, les beaux dessins. Moi, je voulais savoir, pour suivre la progression, c'était quoi les données qui étaient en dessous. Autrement dit, c'est quoi le fichier Excel avec lequel ils ont fait les graphiques? C'est rien de compliqué. Mais ça m'a été refusé à l'accès à l'information, alors que c'était des données qui avaient déjà été diffusées. Tu sais, quand c'est rendu, il faut que tu prennes une loupe et une règle pour trouver les chiffres sur un document qui a été diffusé. ça devient un petit peu ridicule.
Et Patrick, ce que tu dénonces là, c'est pas juste les journalistes qui dénoncent ça. Hein. Il y a des chercheurs de l'Université de Montréal, de l'École de santé publique, par exemple, qui disent exactement la même chose. Écoutez, on aimerait ça contribuer, on peut pas avoir les données. Je veux juste revenir sur la Suède. Est-ce que tu dirais que ça a été plus facile pour toi d'avoir des renseignements en Suède que du gouvernement du Québec?
C'est même pas comparable. C'est même pas comparable. D'abord parce que il y a une masse de, le principe de transparence de l'État en Suède est inscrit dans la Constitution depuis 250 ans. C'est quand même un certain moment. D'office, tout est public. Fait que l'information est très accessible. Puis, bon, c'est pas juste la Suède. Il y a beaucoup de pays en Europe. Le Québec, malheureusement, on est un petit peu à la traîne sur l'utilisation des technologies. Puis en matière de transparence, le commissaire à la santé avait déjà écrit là-dessus il y a quelques années. Fait que par défaut, c'est public. Fait que c'est extrêmement facile. C'est sur le web. Puis, ici, à l'accès à l'information, sans entrer dans le technique, tu reçois ton document. Si t'es pas content, t'es chanceux, la personne va te renvoyer des précisions par courriel, mais souvent, va te demander, ben là, écoutez, ça, c'est trop, faites une autre demande. Puis là, les délais, ça finit plus.
Moi, c'est toutes les raisons sont bonnes pour pas donner l'info.
Exactement.
OK, Philippe, une question pour toi.
Hey, Patrick, je veux revenir là, sur le nerf du sujet qu'on aborde, là, c'est-à-dire ces chiffres qui ont changé sur le nombre d'hospitalisations au Québec. Puis je disais ça ce matin, puis j'ai été fasciné par une chose, je serais curieux d'entendre ton avis. Moi, là, qu'on décide de retirer des listes les gens qui sont guéris de la COVID-19, mais qui sont toujours en milieu hospitalier, je peux comprendre ça. Je me dis que là, ils sont guéris, ils n'ont pas de place à aller dans le moment, pas accessible pour les CHSLD pour toutes sortes de bonnes raisons. On les compte pas, c'est normal. Mais les gens qui sont dans les amphithéâtres puis dans les endroits de fortune qu'on a bâti, les tentes puis pour accueillir des patients, ces gens-là, là, jusqu'à preuve du contraire, sont encore malades. Eux, comment on fait pour les retirer des listes? Ça, il me semble qu'il y a un problème majeur. Là.
Ben, il semble qu'il y a des gens là-dedans qui sont aussi en attente de retourner dans une place. C'est pas des catégories qui sont homogènes, mais il faut se demander pourquoi qu'on fait ça. T'sais, on a un portrait global de gens qui sont présentement dans un milieu hospitalier ou je dirais para-hospitalier puis qui requièrent des soins. Ils ont des médecins, des infirmières, des préposés. C'est ça la situation présentement. Fait qu'à chaque fois, soudainement, c'est quoi l'urgence à vouloir changer ce portrait-là? T'sais, j'en vois pas. Puis tu sais, il y a d'autres exemples. Il y avait des rapports sur la situation des CHSLD qui ont disparu il y a deux semaines. C'était une liste dans laquelle tu avais tous les CHSLD, toutes les résidences pour aînés. C'était indiqué le nombre de cas totaux, le nombre de décès totaux, puis tu avais le portrait complet. Là, le premier ministre, lui, il a décidé qu'il voulait plus que ça soit diffusé parce que il voulait une liste seulement avec les cas actifs. Parce que c'est sûr, des cas totaux, ça augmente tout le temps, puis ça fait peur un peu. Fait que la liste a disparu pendant deux semaines. Elle est réapparue il y a quelques jours. En deux temps, une première fois pour les CHSLD, après ça sur les RPA. Mais là, il manque. D'abord, il y a plein d'erreurs. Hein, ça s'est relevé dans les médias au cours des derniers jours. Quand on vérifie entre les données gouvernementales puis les données sur le terrain, ça marche pas. Puis, si un établissement a plus de cas actifs, même s'il y a eu 50 morts, mettons, il est retiré de la liste. Fait que, pourquoi? C'est comme si on faisait tout pour que ça soit le plus propre possible. Puis écoute, je pourrais continuer pendant 10 minutes à donner plein d'exemples sur le graphique des...
Mais Patrick, je vais te résumer ça comme ça en conclusion. L'opacité est systémique sur les données, sur les documents en général au Québec. Puis la conclusion, c'est que ça sert très bien de politique et qu'importe le parti. Moi, je constate Exactement. Ça là depuis que je fais du journalisme. Puis quand je suis arrivé, c'est le PQ qui était au pouvoir. Ça faisait leur affaire. Les libéraux, ça fait leur affaire. Puis je pense que ça sert bien la CAQ aussi.
Oui, si je peux pas d'ajouter, là, tu sais, quand on critique le gouvernement, c'est pas parce qu'on n'aime pas M. Legault, c'est pas parce qu'on n'aime pas M. Arruda, là, c'est peut-être l'ancien journaliste à moi qui parle, là, mais c'est parce qu'ils ont des fonctions importantes. Tu sais, M. Legault, le job le plus important au Québec à un moment critique, puis l'autre job le plus important au Québec, c'est Dr. Arruda. Fait que c'est correct de poser des questions, puis, tu sais, si on a les bonnes réponses, là, il n'y en a pas de problème.
Merci, Patrick.
Plaisir.